J'ai demandé à Elkridge, lorsqu'on m'a demandé de participer à ce colloque, de situer, en tout cas, mon intervention sur cette conférence de Durban, dont on ne parle plus, pour diverses raisons, que j'espère qu'on pourra développer ici et ensuite aussi à partir des questions, pour deux raisons. Premièrement, nous pensons que cette conférence a permis, en tout cas, de mettre un lien entre l'esclavage, le colonialisme et le racisme. Deuxièmement, les travaux de cette conférence, en tout cas dans sa déclaration finale, ont abouti à la reconnaissance de l'esclavage et le colonialisme comme crime contre l'humanité, ce qui correspond, n'est-ce pas, à la loi Taubira. Ce qui fait que les deux instruments politiques, qui est la déclaration finale, et juridique, qui est la loi Taubira, au monde que nous avons pour l'instant, ce sont ces deux-là. Et donc, je vais dire, oui, je sais que c'est un défi, encore une fois, compte tenu de quelques événements qui se sont passés, qui n'ont absolument rien à voir avec, en tout cas, les intentions de bon nombre d'entre nous qui étaient partis à cette conférence. Donc, je vais commencer à parler, présenter brièvement qu'est-ce que c'était cette conférence et les parties de la déclaration qui concernent mon sujet, l'esclavage et le colonialisme. Ensuite, j'ai entendu ici et là certains échos, hein, mensonges, négationnisme. Moi, je dirais les résistances que nous avons vécues. Quand monsieur parlait tout à l'heure de mensonges, ça me rappelait un peu à certains événements que nous avons vécus. J'y rappelle, c'est toute une année de bataille qui a eu lieu d'abord à Genève, non pas à Durban, c'est à Genève. Le mensonge de l'État dont vous parlez, comment ce mensonge est, en tout cas devant nous, mis en pratique. Voilà. Ensuite, je parlerai de ce qui se passe après. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échos lorsque vous parlez, parce que, en tout cas pour nous, nous faisons partie d'un groupe qui a décidé de faire une rupture avec tout ça. Il fallait prendre le devant de la scène, être des sujets de notre propre histoire. Donc, cette conférence a été convoquée par l'Assemblée générale de l'ONU de 1977 et c'était la troisième conférence mondiale contre le racisme après celle de, bien sûr, de 1978-1983, ce qui aboutit à un constat d'échec et on a donné mandat à cette conférence, entre autres, d'analyser les facteurs politiques, historiques, économiques, sociaux, culturels et autres qui engendrent le racisme. Il y avait sept buts. Bon, j'ai pris ce but qui correspond à cette partie. Vous devinez bien d'où ça vient, bien sûr. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ça fait 6 ans, ou 5 ans presque, on n'en parle plus. C'est tabou, omerta, notamment dans les pays du Nord. Et comme je disais aussi au début, j'ai dit, malgré de très fortes et puissantes résistances, cette conférence, dans sa déclaration finale, et je cite, stipule, nous reconnaissons que l'esclavage, et ça c'est paragraphe 13 hein, de la déclaration finale, nous reconnaissons que l'esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l'histoire de l'humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé, et tout spécialement de la négation de l'essence des victimes. Nous reconnaissons également que l'esclavage et la traite des esclaves constitue un crime contre l'humanité et qu'il aurait toujours dû en être ainsi, en particulier la traite transatlantique, et sont l'une des principales sources et manifestations du racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et que les Africains et les personnes d'ascendance africaine, de même que les personnes d'ascendance asiatique et les peuples autochtones, ont été victimes de ces actes et continuent à subir les conséquences. Ça, c'est la déclaration sur l'esclavage. Qu'a dit la déclaration sur le colonialisme? Paragraphe 14. Nous reconnaissons que le colonialisme a conduit au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie, à l'intolérance qui y est associée, et que les Africains et les personnes d'ascendance africaine, de même que les personnes d'ascendance asiatique et les peuples autochtones, ont été victimes du colonialisme et continuent à subir les conséquences. Nous sommes conscients des souffrances infligées par le colonialisme et affirmons qu'il faut les condamner, quel que soit le lieu et l'époque où qu'elles sont advenues, et empêcher qu'elles ne se reproduisent. Nous regrettons en outre que les effets et la persistance de ces structures et pratiques aient été parmi les facteurs qui ont contribué à des inégalités sociales et économiques persistantes dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Juste après, c'est le paragraphe sur l'apartheid et le génocide qui vont à peu près dans le même sens ou qui sont reconnus comme crimes contre l'humanité. Alors, les résistances, évidemment, n'ont pas manqué. Ah oui, et je ne vous cache pas que ça a été le fruit d'une lutte acharnée. Je répète, l'ONU a convoqué cette réunion en 1977. La première réunion préparatoire a eu lieu à Genève en mai 2000. Durban, c'est septembre 2001. Et entre cette période, il y a eu plein de choses qui se sont passées, bien souvent loin des personnes qui doivent être là, les caméras, etc. La première résistance, et là je reviens à monsieur, ce que vous disiez tout à l'heure, a été constituée au groupe qui est à l'intérieur de l'ONU, qu'on appelle Europe occidentale et autres. Normalement, il y a à l'ONU des divisions géographiques. Vous êtes à l'Europe, l'Amérique, les Caraïbes, l'Asie, etc. Sauf que il y a un bloc politique à l'intérieur qui s'appelle groupe Europe occidentale et autres. Qui est dedans? Les anciens pays colonisateurs, donc l'Europe ici, et vous avez la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie. Et l'Australie. Voilà, c'est le groupe. Et ça a toujours été comme ça. Alors, citons quelques exemples des beaux ouvrages. Qu'est-ce que ce groupe a accompli? Par exemple, l'opposition farouche à la tenue de cette conférence, c'est ce groupe. Europe occidentale et autres. La nomination d'un rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme, c'est ce même groupe. L'usage du mot racisme en tant qu'atteinte aux droits de l'homme, parce que ça aussi, ça a été une bataille menée par les victimes au sein de ces sphères. Après la libération de Mandela, c'est ce groupe. Et tout au long du processus de préparation qui a eu lieu dans différentes parties du monde, ces pays, notamment ce bloc, va refuser d'assumer le passé et exercer des pressions, des intimidations, des menaces en tout genre, aussi bien sur les ONG que sur les pays du Sud. Un exemple, lorsqu'à Dakar, pour la conférence qui concerne l'Afrique, vous avez entendu Abdoulaye Wade dire « un chèque ne remplace pas du sang versé », bien sûr, et nous sommes tous d'accord, on est tous contre la monétarisation de ces causes, bien sûr. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y avait à Dakar une délégation de haut niveau du département d'État. Je ne crois pas qu'à ce niveau, les États-Unis fassent partie, en tout cas, de l'Afrique. Bon, voilà, par exemple. On ne dit pas non plus qu'à un moment donné, il y a eu un doublement de l'effectif des délégations américaines. Bon, alors il fallait être là. Mais en face, le groupe africain, et pour une fois, il faut le dire, le groupe africain, surtout soutenu par les ONG de la diaspora, la nôtre, c'est l'Amérique latine, je vais en parler tout à l'heure, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, puisqu'on était derrière eux, vous ne cédez pas. Voilà. Et le groupe dit GRULAC, qui est le groupe d'Amérique latine et Caraïbes, et plus tard le groupe Asie, alors, tous ces groupes ont fait bloc, ont fait face pour imposer que l'on débatte au sein de l'ONU, au niveau étatique, la question de l'esclavage, du colonialisme et des réparations comme mesure de remède et de compensation pour le préjudice subi. Alors, je sais que souvent, quand on lit ce mot, ça dit, oh là là. Non. En tout cas, j'ai apporté des polices d'assurance qu'une compagnie d'assurance américaine qui est toujours en vie, existe toujours. Ça, c'est des polices d'assurance qu'ils faisaient, ils donnaient pour les esclaves. On assurait les esclaves. Je pense qu'on pourra discuter un peu, je fais les copies. Mais en tout cas, nous, et la majorité des ONG qui étaient là, c'est très clair, la question de réparation posée au niveau politique, c'est par exemple ce qui est fait, la loi Taubira, reconnaissance comme crime contre l'humanité, historique, c'est que les archives comme ça puissent être accessibles à des gens comme vous, éducatives, que vous puissiez les utiliser et diffuser le savoir, scientifique, que dans les universités, comme par exemple les universités américaines, certaines, ont été construites à partir de la vente des esclaves. Eh bien, il faut des cours pour parler de l'esclavage, des cours. Et enfin, avant d'arriver à des questions de relations nord-sud, de déséquilibre économique, il n'est pas question de réparation individuelle, financière. Mais très souvent, dès qu'on sort ce mot, ça y est, on brandit le chèque. Et on parle, alors toujours, le même, on parle. Bon. Donc, ces pays, au terme de cette lutte, est fait sans précédent, pour la première fois à une conférence de l'ONU, on sort, la déclaration prend six mois avant de sortir. Dans les discussions que nous avons eues au cours d'un colloque à l'Université de Genève, où un des représentants et diplomates, après cette bataille, a pu comprendre un peu ce que ressentaient un peu les victimes. Et il était devenu plutôt ouvert. Il parlait. Il se trouve que ce monsieur était dans les négociations, qui nous a clairement dit qu'à un moment donné, les décisions ne venaient plus des ministères des Affaires étrangères. Voilà. Ça se téléphonait de palais en palais. Bon. C'est pour vous dire les enjeux des questions que nous débattons. Alors, depuis Durban, que s'est-il passé? Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le Nord, c'est silence. De toute façon, on ne voulait pas parler de cette conférence. Un. Deux, vous arrivez, et vous arrivez à réussir démocratiquement à imposer vos points de vue. Donc, pas question. En revanche, en Amérique latine, conformément à la déclaration finale et programme d'action de Durban, on a déjà trois gouvernements qui ont créé des ministères qui sont exclusivement consacrés aux questions de racisme, des conditions des afro-descendants et des peuples autochtones. Ce qu'on oublie souvent, l'esclavage, on regarde toujours les États-Unis, non, chiffre Banque mondiale, il y a 150 millions de personnes d'ascendance africaine, l'autre côté, Amérique, dite latine. Donc ces pays qui ont créé ces ministères, il s'agit du Brésil, du Pérou et de l'Équateur. Le Honduras a mis en place une commission nationale contre le racisme, modelée sur ce qui a été dit à Durban. Il y a un intérêt accru pour les questions concernant les afro-descendants. Au niveau de l'enseignement, la reconnaissance de l'histoire des Afro-Colombiens et leur contribution dans la construction de l'identité colombienne est obligatoire dans les programmes d'histoire de l'enseignement secondaire. L'Équateur, le Honduras et le Nicaragua, le Brésil ont tous intégré dans leur programme d'enseignement secondaire l'histoire des personnes d'ascendance africaine dans ces pays. En Argentine, un programme d'études sur les Afro-Argentins a été mis en place dans quelques universités. Retour au Brésil, trois ministres d'origine afro-brésilienne ont été nommés depuis Durban. Et en Uruguay, la mairie de Montevideo a mis en place un département consacré aux questions des afro-descendants. D'ailleurs, un de nos copains qui est avec nous dans les luttes était candidat aux élections sénatoriales. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis même, un pays de toutes les contradictions? D'abord, parallèlement à Durban, il y avait des recherches menées par certaines universitaires, notamment militants, notamment une dame qui s'appelle Deidre Pellman. Elle a engagé, elle a mis du temps pour des recherches pour montrer les liens entre les compagnies, les grandes compagnies multinationales ou nationales, et l'esclavage. Il s'agissait par exemple des banques, des assurances, etc. Et ce qui a conduit par exemple à cette police d'assurance, Aitena. Et de retour de Durban, avec la déclaration qui reconnaît l'esclavage crime contre l'humanité, les juristes et avocats nord-américains qui étaient avec nous ont décidé avec Pellman de porter la question devant les tribunaux. Ça, c'est des méthodes qu'on appelle litiges stratégiques. Alors, c'est vrai que peut-être vu de France, ça peut poser question, mais je pense que il y a eu des... il faut regarder ça, comment dirais-je, d'abord les personnes qui sont impliquées, qui ont initié ces démarches, ce sont majoritairement des personnes qui ont été des militants de cette cause. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, encore une fois, il n'est pas question de réparation individuelle. Non, c'est le logement, la santé, l'éducation, l'eau, etc. Tout le monde pense à la mise en place de fonds. Donc, en cas de, comment dirais-je, suite favorable de la justice. Mais surtout pour notre association, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez faire de la recherche sur ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, il faut regarder ce que font ce qu'il y a dans ce qui est contenu dans ces procédures judiciaires. Alors, donc, il y a aujourd'hui 9 plaintes contre diverses entreprises américaines sur l'esclavage. La dernière en date de la banque JP Morgan Chase, qui a le monopole des prêts étudiants, 9 milliards par an. Bon, ils ont demandé pardon. Bon, on vous donne un chèque de 5 millions. Il y a que vous gardez votre chèque. Et de là, au moment où je vous parle, il y a une campagne boycott nationale, un peu partout. Mais à part ces plaintes sur l'esclavage, à cause de une loi aux États-Unis qu'on appelle Alien Tort Law, qui permet de porter plainte contre une compagnie ou quelqu'un qui fait des affaires aux États-Unis, par n'importe qui, nous avons 2 plaintes venant du continent africain. Nous avons la première qui est de Jubilee South Africa et Kulumani Support Group. Ça, c'est contre des banques, toujours, qui ont bénéficié de la retraite, qui ont collaboré. Il y a certaines banques françaises dedans. Je crois que je n'ai pas cité. Bon, il y a certaines banques françaises, Barclays, etc. et d'autres. Et puis, une plainte où notre association est maintenant, associée. C'est celle qui concerne le génocide contre les Herero. L'année dernière, nous avions invité un des avocats au cours d'un événement ici. Nous avons un film sur le génocide des Herero. Et ce cabinet, d'ailleurs, a pris une jeune avocate, membre de notre association, qui est née dans le 93. Elle a fait son stage tout récemment, elle est rentrée. Donc, 2 plaintes émanant du continent africain. Alors,
il est clair que le but, c'est de faire pression. Et moi, ce que j'ai vu comme signe positif, un, comme je disais, la recherche.
Puisque pour être devant un tribunal américain, je vais que vous redressiez sur les problèmes dont on ne veut pas parler. En tout cas, il faut avoir une rigueur, une profondeur. Et quand vous regardez les procès, vous trouvez une bibliographie très riche et très, comment dirais-je, large et vaste. Deuxièmement, je pense que Strategic Litigation a permis de sortir le débat des ghettos, des journaux des ghettos, au grand quotidien. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde parle un peu plus. Bon. Il y avait certes peu d'intérêt en France sur tout ce qui se passait à Durban. Il y avait peu d'associations qui suivaient. Mais le vote de la loi Taubira, le 10 mai, à 4 mois de la conférence de Durban, était arrivé à un bon moment, puisqu'elle a non seulement légitimé notre combat pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais a divisé, elle a surtout divisé le front du refus qui était incarné par le groupe Europe occidentale et autres. L'argument qu'on nous sortait à cette époque, c'était on ne peut pas l'inclure dans la déclaration finale puisqu'aucun pays au monde, aucun texte existe qui reconnaît l'esclavage, le colonialisme comme crime contre l'humanité. Et là, bam, 10 mai, la loi sort, République française, vous ne pouvez pas le nier. C'est un État membre du Conseil de sécurité, donc il faut prendre acte. Voilà. Et ensuite, c'est vrai, nous avions aussi bénéficié du soutien actif de l'ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, celle qui a été assassinée, qui était beaucoup plus ouverte que d'autres ministres. Et puis, à Durban même, je pense que la personnalité de l'actuel commissaire européen au développement, Louis Michel, a facilité un peu que le débat ait pu avoir lieu. Tout ça m'amène à dire que, d'abord, sur le point de vue personnel, cette conférence, et par le retentissement et la confrontation qui a été menée de part et d'autre, a permis, en tout cas au niveau des victimes, de libérer la parole, déjà. Et c'est très important de pouvoir parler, puisque si vous allez parler, il faut argumenter. Pour argumenter, à partir du moment où vous argumentez, vous commencez à devenir un peu plus rationnel. D'accord? Oui, 2 minutes, je termine. Je pense que on a ouvert une brèche dans le mur de silence sur l'esclavage qui sera impossible de fermer. Je vous remercie.